rire des visages de l'Algérie, traverser ses couleurs, raconter ses légendes, ses dents, des villes et des histoires. Des villes et des histoires, une émission produite par Melika Lafer, réalisée par Saïd Boutelfa.
L'étymologie du mot souf n'a jamais pu être établie. Les uns veulent y voir le mot arabe souf, qui signifie laine, parce que le tissage de la laine était jadis une des principales ressources de la région. D'autres nous disent qu'il s'agit du mot siouf, mot signifiant dune en arête, et que ce mot se serait déformé en souf pour désigner le pays des dunes. Une légende tente d'expliquer encore le nom. Au temps des chrétiens, une rivière abondante traversait le pays du nord au sud et s'appelait Oued Izouf, la rivière qui murmure. Mais les chrétiens, forcés de se retirer devant l'islam victorieux, firent disparaître la rivière dans les profondeurs du sol avant de s'enfuir. Oued Izouf coule toujours et le mot altéré serait devenu Oued Souf. Et le Oued Souf se caractérise des autres villes sahariennes par ses immenses étendues de dunes de sable pouvant atteindre 100 mètres de haut, ce qui lui vaut le nom de la ville au sable doré ou la mer des dunes, ville aux mille coupoles. Pour comprendre cette appellation, il suffit de monter sur la tour en forme de minaret de l'hôtel du Souf. La coupole est omniprésente dans l'architecture des maisons classiques d'El Oued, car la coupole permet de réfléchir une bonne partie des rayons solaires en été. Comme la propriété de la couleur blanche de la gandoura, légère tenue masculine que porte le soufi du mois de mai au mois de septembre. Ville aux mille coupoles, ville aux mille poètes, car il existe deux types de poèmes dans l'Oued Souf. Le medh à caractère religieux et le fakhr à caractère épique. Le medh a connu son essor avec le développement des confréries religieuses dans la région. Les poètes soufis, à la moitié du 19e et au 20e siècle, ont excellé dans ce domaine. On peut citer Bentwir de Tarzourt, Bendi Ish'ala de Quinine et Aïcha Ben Ali Lawar de Guémar. Ils ont chanté la sainteté de leurs précepteurs, la grandeur de leurs confréries, leurs sentiments et leurs espoirs mystiques. Le Fakhr est une poésie épique qui vante la bravoure guerrière, le courage, l'héroïsme et l'acceptation du coup du sort. Cette variété est d'implantation plus ancienne et se confond toujours avec les exploits des habitants. Ces deux genres de poèmes, El Medh et El Fakhr, sont chantés et appréciés dans tout le Souf, chez les populations sédentaires et semi-sédentaires. André Gide, lui, vint à l'Oued à dos de chameau et il se plaisait. Lorsqu'il y revint, en 1942, cette fois en automobile, a évoqué ses méharis aux temps les plus glorieux. Isabelle Eberhardt vint au Souf en 1899, fut impressionnée par le flamboiement des dunes et des coupoles. Plusieurs pages de ses écrits sont imprégnées de ses sensations. Avec M. Mihi, qui vient de publier un ouvrage sur Isabelle Eberhardt, il raconte un peu sa ville et la fascination qu'Isabelle a eue pour Oued Souf. «
Alors, Monsieur Mehdi Abdelkader, merci d'avoir répondu à notre invitation ici à Oued Souf. Vous êtes un soufi, un poète, un traducteur, cadre à la Chambre de commerce. Vous avez traduit quelques textes d'Isabelle Hébérard, Mes jours l'alliés, c'est-à-dire au pays des sables, dans l'ombre chaude de l'islam, contes et paysages donc, de Oued Souf, c'est ça ?
Bon, tout d'abord, on vous remercie, vous aussi, de nous accueillir à la chaîne 3. C'est l'occasion de faire connaître un peu le côté culturel du souf. Bon, en ce qui concerne Isabelle Eberhardt, moi je suis venu à Isabelle Eberhardt un peu par hasard, parce qu'on faisait des colloques et des rencontres sur ce personnage controversé. Et pour nous, soufis, Isabelle Eberhardt est un passage obligé quand on parle de culture dans la région du souf. Cette femme un peu cavalier, un peu écrivain, un peu phénomène social, etc., est venue à deux reprises à El Oued. La première fois, elle est venue parce qu'on lui a recommandé de faire une petite enquête sur la mort d'un noble aventurier français qui s'appelait le marquis de Morès. Et on lui a coupé la route, parce qu'elle devait aller sur Ouargla, on lui a coupé la route, les autorités françaises ne lui ont pas permis, ils ne lui ont pas donné l'autorisation d'aller jusqu'à Ouargla. Et donc, en revenant vers l'hôtel, elle a fait un crochet sur El Oued. Et là, elle découvre une ville du désert, du sable fin, un coucher de soleil merveilleux, des gens d'une bonté qu'elle ne connaissait pas avant et tout ça. Et donc, quand elle est repartie, elle est revenue l'année d'après, à la même période, c'est-à-dire en 1900, parce qu'elle est venue en 1999 la première fois, elle est venue, mais dans le but de s'installer pour quelque temps à El Oued et peut-être pour toujours, et avec un projet littéraire. Elle voulait écrire ses impressions sur le souf et tout ça.
Ses textes sur le souf, elle était fascinée, sont très descriptifs aussi.
L'écriture chez Isabelle Eberhardt a des paliers. Tout d'abord, on trouve les journaliers. C'est des petites remarques, c'est des impressions comme ça écrites à la hâte. Puis il y a le deuxième palier qui est des textes un peu élaborés, c'est des impressions. Et il y a en fin de parcours, il y a les nouvelles. Et là, elle écrit des nouvelles dans le souf avec un arrière-plan. La société soufie, le paysage soufie et tout ça.
On disait hors micro que c'était un personnage controversé et vous me disiez qu'elle n'a pas été dans ses écrits contre la colonisation. Elle faisait la propagande pour la colonisation.
C'est-à-dire que, bon, quand on dit que... Parce que les gens, comme je l'ai dit, c'est un peu un personnage un peu bizarre, un peu controversé. Et les gens disent que Et Isabelle Eberhardt est venue en Algérie pour faire de l'espionnage au bénéfice de l'armée française et tout ça. Alors que, par exemple, dans le souf, Isabelle Eberhardt est venue après que les Français se sont installés dans la région. Mais elle-même, elle dit que moi, quand je parle de la France, quand je parle de la colonisation, je vante la colonisation chez mes co-religionnaires. Chez les musulmans, mes frères musulmans, pour leur dire que la colonisation apporte quelque chose de bien pour vous. Ce qu'elle dénonce, Isabelle Eberhardt, ce sont les exactions de certains fonctionnaires. Par exemple, dans Criminel, elle parle des exactions parce que les gens ont été expropriés dans la région dans cette région d'Itel, elle dit que bon, c'est les fonctionnaires qui sont à Alger qui ne sont pas au courant de ce qui se passe dans cette région qui sont fautifs. Alors que l'expropriation, c'est un acte criminel en lui-même. Et ici, à El Oued, elle dénonce les exactions des officiers, mais elle dit que la colonisation, elle apporte la modernité et tout ça.
Justement, elle est morte, donc on le sait, à Ain Safra. Deux ans après, justement, qu'elle soit venue, quatre ans après.
Elle est morte en octobre 1904, alors qu'elle est venue en 1900 ici à El Oued.
Pourquoi ce besoin de la traduire ?
Bon, tout d'abord parce que, comme je l'ai dit, ce personnage, les gens, quand ils écrivent sur Isabelle Ebbahar, généralement, ils écrivent sur le personnage. Ils essayent d'analyser un peu sa psychologie, sa psychanalyse, ses aventures, ses rencontres et tout ça. Généralement, ils ne parlent pas de la littérature d'Isabelle Ebbahar. Et ici, Aylwed, comme je l'ai dit, c'est un personnage qui a été l'un des premiers à écrire sur le souffle, avec amour, avec beaucoup de désir aussi, etc. Et les gens, ils entendent parler d'Isabelle Ebbahar, mais ils ne connaissent pas ce qu'elle a écrit. Et donc, maintenant, la lecture, généralement, ça se fait en arabe. Donc, pour faire connaître ce qu'elle a écrit sur le souf, ça a été ce besoin de traduire Isabelle Ebbahar.
Le souffle, il a été donc longtemps une région impénétrable et mystérieuse. Vous êtes d'accord de cette description ?
Certainement, parce que le souffle a été enclavé. Vous savez, il faut faire 100 km pour arriver jusqu'au début du Tell. À vol d'oiseau, à peu près, c'est ça. Pour arriver à Khenchla, il faut faire aussi 100 km. Au sud aussi, on a au moins une centaine de kilomètres de sable. Donc, c'est la loi d'aller rester pendant des siècles enclavé. C'est que dans les années 40 que le pays commence déjà à être un peu désenclavé par l'arrivée du train, 1947, etc. Donc les gens du souffle ont gardé un peu le leur parler un peu pur, sans, quand je dis pur, ça veut dire qu'il n'a pas été... parce qu'ils n'ont pas été en contact avec d'autres populations.
Alors justement, c'est un paradoxe que vous dites là. Vous dites qu'ils n'ont pas été en contact avec d'autres populations, alors que dans le temps, au Xe siècle, même au VIIe siècle, beaucoup de populations sont venues, se sont mêlées justement à d'autres, celles du Sahara.
Quand les Algériens sont venus ici, ils ont trouvé la région du Souf, il y a des tribus ou quelques populations de Zénètes qui se sont vite intégrés avec les Adouanes et les Troudes. Mais quand je parle d'autres populations, c'est bien sûr il y avait un peu de contact avec les Nmemcha par exemple, hein, mais c'était pour des besoins de commerce, etc. Mais il n'y avait pas un brassage de population.
On dit que les soufis excellent dans le commerce. Ça vient de quoi?
Ça vient peut-être de la pauvreté de leurs terres, parce que les terres ne produisent pas, donc ils n'avaient que le commerce pour fructifier un peu et pour améliorer un peu leur vie. Et puis parce que c'est des gens, c'est des voyageurs, c'est des gens qui s'exilent, qui vont ailleurs, c'est ça.
La région a connu une forte émigration ?
Certainement, parce que comme j'ai dit, les gens où les populations où la terre est fertile n'émigrent généralement pas. Ce sont les soufis, parce que le souf c'est le désert. Ce sont les kabyles, parce que ils vivent sur les flancs de montagne où ils ont quelques oliviers, etc. Et donc ils sont obligés de s'exiler pour vivre.
Alors, on dit que les hommes donc sont venus, se sont mêlés à l'histoire donc du Sahara de la région de Oued Souf. C'était aussi, il y a aussi une particularité dans la région, c'est la rencontre littéraire. Il y a beaucoup de poètes et d'auteurs.
Ça, c'est la poésie, c'est surtout le bédouin, les bédouins qui la font. Et c'est peut-être ça remonte à nos origines bédouines, comme l'a dit. Monsieur Bdiaf, les Troudes surtout, et c'est la majorité de la population du Souf sont d'origine bédouine.
Donc jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui, on trouve des poètes populaires, des poètes qui écrivent avec le langage, le parler soufi, comme moi par exemple. Et on trouve aussi beaucoup de poètes qui font dans l'arabe littéraire. Vous pouvez rencontrer des dizaines de poètes ici dans le Souf. Ouais.
Monsieur Mehi, on a dit que vous étiez donc poète.
Oui, je suis, fan d'un poète qui s'appelle Brahim Bismillah. C'est un poète qui a vécu à cheval entre le 19e et le 20e siècle. et j'ai appris quelques très bons poèmes de Bismillah. Dans un poème, il dit حصه الداداي ضاوي الجبين ومنعو توين ومنها شقي العقل البيت حزين حصه الداداي غابوا ذهوني حمايم قلوني ومنهزت عيونها ذبلوني وناسك عدو يهود لا يحملوني دون نقصوني كثر الهرم والمسامع عربوني صغير العلا سب تنازعوني وبرموه دوني وللموت لنهون نزهة عيوني كون السكنت اللي حايد ادوني مع الميتين وحطوا على المقبرة شاهدين حصه الداداي ضاوي الجبين. Hada, c'est écrit avec des termes qu'on n'utilise plus maintenant dans le souf. C'est des termes, c'est de l'ancien soufi, c'est du ghazal. Il parle de sa bien-aimée et généralement il utilise les mêmes images, mais à chaque fois il les présente d'une autre façon. Moi je connais à peu près tous les poèmes qu'il a fait, j'ai appris quelques-uns et l'image, elle est la même, c'est la même image, mais il vous la présente d'une autre façon.
La dernière question, Monsieur Mehi Abdelkader, je rappelle que vous avez donc traduit des textes d'Isabelle Ebera, que l'on trouve où ?
Dans les librairies. Le texte il s'appelle Aoudat al-Ashq al-Manfi, le retour de l'amoureux exilé.
Monsieur Mehi, justement, vous parliez de Oued Souf qui était plus ou moins enclavé. Et lorsque la France est arrivée, en quelle année elle s'est installée justement dans la région ?
Il y a ici, à Débila, il y a un endroit qu'on appelle le Mahalla. Mahalla veut dire en français le camp, c'est-à-dire le camp des Français. Parce que les Français sont arrivés en premier lieu de Tougourt sur Débila avant de pénétrer la ville d'Oued. Ils sont arrivés à peu près en 1875 à peu près. Ils sont rentrés à El-Oued, qui avait à peu près 5 à 6 000 habitants, en 1880 à peu près.
Donc ils se sont installés militairement.
Militairement. Mm-hmm. Militairement, ils ont construit un bourg, comme ils le disent. Et petit à petit, ils se sont installés définitivement.
Ils ont construit des forts pour pouvoir...
Comme ils le font partout ailleurs. Quand ils s'installent, ils construisent tout d'abord un bourg, un fort. Puis ils commencent un peu.
Quel était justement l'état d'esprit des soufis?
De la population. Oui. Bien sûr, les gens... Regarder le Rumi arriver, ça ne le fait pas. Il n'était pas content. Mais les premiers signes de révolte est apparu avec Cheikh Al-Hashmi en 1918. Bon, tout d'abord, avant cela, il y a eu la Moubaïa de l'émir Abdelkader. Il y a les représentants des tribus de la région qui sont partis assister à cela et ils ont fait allégeance à l'émir Abdelkader. Ça, c'est une manifestation d'appartenance à la nation. Et puis après, tout d'abord ça, les Français quand ils sont installés ici, vous savez, la force, les canons et tout ça, et donc la population est restée à l'expectative. Mais après, petit à petit, les gens ont repris conscience et vous savez, dans chaque région, il faut un leader. Et ils ont trouvé ça en la personne de... On appelle ça le Hedda, Hedda Ta'amish, le Oula. Parce qu'on a deux manifestations. Le Hedda Oula, c'est Cheikh Al-Hashmi, c'est le Cheikh de la Zawiya Khadriya. C'est en 1918, il était contre la conscription. Conscription, c'est bien ça. Parce que la logique disait que notre région, c'est une région militaire. Et donc les gens, ils sont tous... censé être militaire, hein, ils sont censés être enrôlés. Donc il était contre ça, et il a obtenu la non-conscription de tous les Sahariens. Ça se passait en 1918. Puis la deuxième, et c'est elle qui a été à l'origine de la première, du premier groupe de nationalistes dans la région, de jeunes nationalistes, c'est le Hedda Cheikh Abdelaziz Sherif en 1938. Il y a des jeunes qui ont été emprisonnés, il y a des jeunes aussi qui ont été exilés. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pris conscience et ils ont pris contact avec, avec le PPA de Biskra et d'Alger. Ils ont formé le premier, la première cellule PPA en 1943.
Donc on peut dire qu'ici à Ouedsouf, il y a eu un noyau nationaliste qui représentait un peu la région du Sud.
Oui, parce que tout d'abord ça, la première cellule a été créée, comme je l'ai dit, en 1943 par un groupe de jeunes, ils étaient six jeunes, Miloudi Ahmed, les frères Ounissi, Ounissi Al-Hashmi, Ounissi Al-Mouldi, Ben Moussa Bachir, Mehi Mohamed Belhaj, et Abdelkader Lamoudi, c'est l'un des 22. Ce sont ce groupe-là qui a été à l'origine de la lancée du nationalisme dans la région.
Ensuite, bien sûr, il y a eu l'OS.
L'OS, et dont le chef était Abdelkader Lamoudi, c'est le chef de la région Ouest-El-Mamchaï, le sud, et dont Mehi Mohamed Belhaj faisait partie. Les premières armes sont parvenues à la révolution par notre région, parce que c'est une région difficile à contrôler.
Vous avez un souvenir, le souvenir de votre père, le marhoum, qui a ramené, lui, justement, des armes de là-bas.
Oui, c'est une histoire, cette histoire est connue, elle a été racontée dans le livre de Ben Khad, Les origines du 1er novembre. On lui a investi d'une mission de collecte et de convoiement d'armes de la Libye jusqu'au Souf, et du Souf jusqu'aux Aurès. C'est une mission qu'il a faite comme il faut, et les armes sont arrivées en main à main à monsieur au Shahid, Rahmou Mustafa Mboulay.
En essayant de pénétrer dans chaque foyer, dans chaque village, pour doter cette richesse incalculable qui s'appelle la tradition ou l'expérience d'un monde merveilleux qui malheureusement se perd au fil des ans sous la poussée du modernisme et du progrès. Et pourtant, comment vivait-il ceux des siècles passés? Comment il se soignait? Nous pourrions en tirer une leçon capitale. C'est ce qu'il ne faudrait peut-être pas rejeter trop vite. Tout ce que les ancêtres nous ont transmis et qui représente des siècles d'obstination, de courage et de volonté. C'est le début des Futuhat al-Islamiyya et l'apparition successive des royaumes et des dynasties arabo-berbères. Au Maghreb central, quelques décennies plus tard, Hafsid, Rostomid, Hamadid, Ouedsouf et Bedril y subiront l'influence de ces dynasties. L'arrivée des tribus arabes des Benu Soulem et Benu Hilal verra les Adouens descendants des Beni Marzoum, Kourichides de la Mecque et les Troudes s'installent à Ouedsouf, suivis des autres fractions de tribus arabes du Yémen, de Syrie et d'Arabie. Que reste-t-il des sites et monuments qui nous rappellent toutes ces décennies? On écoute M. Mahmoudi Hassan, directeur de la culture de la wilaya de Ouedsouf. Alors nous sommes reçus chez M. Hassan Marmouri, qui est le directeur de la culture à la wilaya d'Elwed. M. Hassan Marmouri, merci de nous recevoir. Alors, un nouveau complexe culturel qui va bientôt être inauguré, avec une superficie de 10 000 mètres carrés. Alors c'est une région qui est particulièrement fourmille de poètes et de hommes de lettres, puisqu'on dit qu'à l'arrivée donc des Hilaliens au Xe siècle, il y avait des rencontres littéraires, et aujourd'hui la tradition s'est perpétuée, puisqu'il y a rencontres tous les lundis.
Merci également. Tout d'abord, la ville d'Elwed connue par mille et une coupoles. Mais en arrivant ici, on peut découvrir qu'Elwed aussi, c'est une ville des mille et un poètes, mille et un écrivain, mille et un savant, et ainsi de suite. Donc, évidemment, c'est toutes ces compétences et toute cette énergie doit être, c'est-à-dire encadré. C'est pour cela qu'il y a eu une initiative pour cette rencontre de chaque lundi. Donc en parlant du complexe, c'est vrai, c'est une infrastructure géante. Donc c'est une énorme œuvre qui contient six grands espaces Il y a une bibliothèque pour enfants et adultes. Il y a aussi une salle de conférence. Il y a aussi un théâtre en plein air, quatre grandes salles d'exposition. Ce complexe sera occupé bientôt par la direction avec matériel qui sera de performance et un matériel moderne. Donc il sera inauguré inchallah au mois de mars prochain, et ce sera un espace culturel dont on a besoin, qui va créer un dynamisme culturel au niveau de l'Oued.
Monsieur Hassan Mahmoud, je rappelle que vous êtes le directeur de la culture donc à la wilaya de l'Oued, et beaucoup de sites historiques dans la wilaya. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns?
Oui, lorsqu'on parle des sites, on parle du patrimoine national et des biens culturels des nations. Donc ici à l'Oued, comme partout dans les zones sahariennes, il y a un patrimoine énorme et original. C'est-à-dire, à travers le temps, il y a un cumul de plusieurs civilisations et plusieurs cultures. Premièrement, on peut commencer de la préhistoire, concernant surtout les matériels, les patrimoines matériels. On peut parler des outils lithiques dans la région de Médina et Sif Mnadi, à Arguiba, et aussi aux environs d'Erg. Là où on trouve des utilités comme les points de flèche, comme les galets aménagés et même les tessons d'œufs d'Autriche, on peut les trouver partout. Après, ça, ce sont des sites de surface. Il y a, après, on peut parler aussi de l'Antiquité. Il y a plusieurs ruines romaines. C'était la région aussi marquée par l'arrivée des Romains au 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on parle des Sandaros. C'est là où il y a les ruines d'une cité antique romaine. Il y a aussi, on peut parler aussi de Rugouba, là où on a trouvé des pièces de monnaie qui revient aux Romains. Après, on peut parler aussi de l'histoire. Après l'histoire, et surtout après l'arrivée de la civilisation islamique, après d'autres dynasties qui succèdent après, comme les Ottomans, donc qui ont vraiment fondé des civilisations à travers les temps par les bâtis, c'est-à-dire les Xor. Ces Xor sont un type d'architecture saharienne qu'on trouve partout dans le Sahara. Ici à l'Oued, il y en a plusieurs. On peut parler de celle de Tmerna. C'est un type de Xor construit par des matériaux locaux. Donc ces Xars-là, c'est une œuvre d'art qu'on a pu dernièrement classer comme secteur sauvegardé, et avec aussi les cités de la Chèche, qui est le premier noyau de la ville de l'Oued, caractérisé par sa coupole, ses petites ruelles et ainsi de suite. Donc ça, ce n'est qu'un exemple, il y en a beaucoup de ça. Après, il y a aussi les Zawaya. Les Zawaya, il y a une de ces Zawaya qui a été classée comme monument national en 1982. Il s'agit des Zawaya Tijaniya, il y a aussi les Zawaya Rahmaniya et les Zawaya aussi des Qadriya. Et ce sont des Zawaya qui sont proposés parmi les secteurs sauvegardés de l'Achache, qui sera présenté au ministère de la Culture au mois de mars prochain. Après la préhistoire et l'antiquité et l'histoire, on peut parler aussi du patrimoine naturel, puisque l'Oued aussi est caractérisé par le rote. Le rote, c'est un patrimoine pas seulement naturel, mais qui reflète, c'est-à-dire une activité socio-culturelle et même économique, et reflète aussi les combats et la résistance du climat saharien au niveau de l'Oued. Ces routes-là, disons, pas vraiment classées, mais c'est-à-dire laisser le responsable de l'UNESCO de prendre l'Oued comme un itinéraire international, rien que pour constater et voir les routes. Donc les routes, disons, c'est un type de jardin local. avec lesquels on fait, c'est-à-dire on creuse pour mettre des palmiers et cultiver la terre.
Tous ces sites que vous venez de nous citer sont à sauvegarder ?
Oui, tous ces sites-là, la plupart de ces sites en tout cas, sont dans l'intérêt de notre sauvegarde et ce sont la plupart d'eux sont classés comme monuments au niveau de la wilaya. Il y a 41 sites que nous avons déjà classés comme patrimoine au niveau de la wilaya et qui seront après proposés pour le classement comme monument ou secteur sauvegardé au niveau national. Donc, avec peu de moyens qu'on dispose ici, c'est-à-dire nous sommes obligés de les sauvegarder, de les conserver en appliquant la loi 9804 et ainsi en faisant, c'est-à-dire informer les gens, la sensibilisation des gens sur le patrimoine et les biens culturels nationaux, c'est-à-dire parce que la responsabilité de sauvegarde et de conservation ne revient pas, c'est pas uniquement pour la direction, mais c'est tout le monde qui sera impliqué là-dessus.
Avant de tourner les dernières pages d'histoire recueillie dans la wilaya de Oued Souf, je voulais rendre hommage au chantre de la chanson de Souf. C'est un peu notre Louis Armstrong avec sa zona et son tabay. Abdallah Mennaï, sa carrière artistique, il ne l'a commencé qu'à la fin des années 60, lorsqu'il était émigré en France, testant sa voix dans différents genres, il a pu enfin fixer son choix. En 1969, il interpréta la première chanson qu'il composa lui-même. Il a pu se frayer un chemin qui le conduira directement au monde de la chanson bédouine. À l'écoute des airs repris dans les mariages de la région, il répertorie les chants les plus expressifs, fait un travail de synthèse et donne un cachet nouveau à des chansons anciennes. C'est la star populaire jusqu'en Tunisie, on l'écoute.
Ya la la la, ya la 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 la, ya la 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 la. صيام رمضان واشع ولا رايح قول. هذه c'est une chanson, c'est une message pour l'homme, parce que les gens de l'Oued sortent et ils travaillent à Ouanza, ils travaillent à Ardeya, à Tunis, ils travaillent à Sma. Là la femme elle reste seule parce que les Sma, c'est un message, ça il faut, mais c'est un message pour l'homme. Il y a là, ça y est, parce que la femme, elle a envie, il y a un message comme ça. Si, c'est la femme qui a commencé de chanter, c'est elle première, la musique. L'ère de la musicale, c'est une femme. Parce que là, les hommes, avant de l'Oued, bon, il n'y a pas de travail, il n'y a que le palmier, un petit machin de rien du tout, il n'y a pas de travail, comme on dit. Alors, ils sont. Les hommes, ils sortent. Mais il reste un an, deux ans. Alors la femme, elle reste seule parce que la femme, ici, chez nous, enfin, à l'Oued, notre tradition, tout le monde commande à la femme. Tout le monde commande à la femme. Le vieux, la vieille, etc., etc. Tout le monde. Là, la femme, il n'y a pas d'esclavage, elle travaille. Mais de temps en temps, quand on fait maintenant les plis ou quelque chose comme ça, elle chante elle-même. Elle chante. Bon, cette chanson, comme j'ai dit tout à l'heure, là, c'est un message, c'est une lettre. Maintenant, les hommes, ils chantent ça. Il y a là, raïh goulla, saïm ramadan ou chahwala. Parce que le saïm ramadan, le ramadan, c'est. Attends, c'est ma'na.
D'accord, Abdallah Mennaï, on comprend pourquoi vous avez émigré. Si vous êtes en France, vous avez un travail très dur, vous peinez justement dans la tâche qui vous incombe, mais vous êtes assez rusé puisque vous dites il faut que je fasse autre chose pour pouvoir gagner mieux ma vie, c'est-à-dire la ferronnerie.
Bah voilà, comme je vous dis, quand j'étais en France, j'étais à Cavaillon, le mois de janvier, le lendemain, je travaille. J'ai pris un travail, j'ai travaillé chez Fournier, avec beaucoup de gens de l'Oued, bien sûr. Et ben voilà, je souffre dans le travail, c'est un travail pénible, travail très dur. J'étais jeune, j'étais scoutisme, j'étais le fils de maman, enfin à l'époque, hein, pas maintenant, le fils de maman c'est autre chose. Bon. Alors là, je trouve que dire, parce que j'ai gagné un peu d'argent, c'est pas beaucoup, j'ai gagné un peu. Moi, c'est beaucoup, mais je ne savais pas. Parce que mon père, après des années, je trouve mon père qui travaille. Je travaille à la compagnie de tramway à Tunis, et il gagne 17 000 par mois. Et moi, j'ai envoyé à ma mère plus que 25 000, 27 000. Oh, bon, c'est ma mère, c'est pour ma mère. Mais moi, je ne savais pas. Moi, je garde un peu d'argent et le reste. Ah, et ma mère, parce que voilà, grâce à elle que je suis menaire actuellement. Bon, à l'époque, j'ai pris le métier de soudure. J'étais à Maubeuge, j'étais à Limoges. Je cache pas que j'ai pris un diplôme mention. Très bien, madame, parce que très bien, c'est si rarement. Et j'ai dit ça devant vous. J'ai pris il n'y en a pas qui l'a pris très, parce que là, pour amour, j'aime travailler, j'aime gagner. Après, j'ai travaillé chez Renault. Pendant la Révolution, j'étais soudeur professionnel chez Renault. Chez Renault. Après, il vient la Révolution. Le jour de la Révolution, j'ai commencé à chanter. J'ai chanté presque dans 20 cafés. J'ai chanté à Nières, j'ai chanté à Colombes, à Pezon, en Nanterre. J'ai chanté partout pendant la semaine. J'ai chanté aussi la chanson de Ahna ma binna w bina kfar ya stamar. Ahna ma binna w bina kfar ya stamar. Khalli thawra twalla nar, 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 nar. Alors là, le jour là, on chante cette chanson, tout le monde chante avec moi. Sauf un peu des Algérois, de machin, ils ne savent pas cette chanson. Nous, les gens de Sahara, alors tout le monde écrit après moi. J'ai chanté avec beaucoup de Tunisiens, avec beaucoup d'Algériens. Et j'ai raconté beaucoup d'Algériens. J'étais à l'amicale, j'ai chanté avec Sadawi, etc. J'ai chanté avec Monsieur Missoum, je connais Madame Saloua en France, je connais Gary Slimane, je connais Kmeha, Hamadi Kmeha, je connais Smaïl Lkhouch, je connais Monsieur Slimane Azam. Je connais beaucoup de monde, j'ai pris beaucoup de choses, et j'ai enregistré beaucoup de choses. Et voilà, maintenant, voilà.
Abdallah Menaï, donc c'est la rencontre de plusieurs genres. Vous, c'est pas que vous découvrez, mais vous rencontrez la chanson kabyle, la chanson bédouine, la chanson algéroise, de Andaba.
Toutes les chansons. Parce que là, c'est une vraie école. J'ai chanté avec eux, j'ai chanté égyptien avant. Je ne chante pas algérien, je chante égyptien. Je chante Asfori, je chante Kandil, je chante Abdouhab, je chante Abdelaz Mahmoud, je chante beaucoup de chanteurs. Bon, et j'ai fait l'animation. Ah ben, je suis un vrai animateur. J'ai fait l'animation, j'ai fait rire les gens.
Donc on disait que c'était la connaissance et tout ça. Vous rentrez à l'Oued après combien d'années d'émigration?
Bon, je rentrais en 66. 66, j'ai dit voilà, bon, pour avoir, est-ce que j'ai une place à l'Oued? J'ai un place en Algérie ou là. Bon, j'étais là avec mon diplôme, etc. pour avoir Hassem Assoud, mon rêve, le rêve. J'étais Hassem Assoud, j'ai trouvé la bureaucratie. La bureaucratie a commencé depuis extant, la bureaucratie. Moi, c'est dès maintenant. Ça fait longtemps. Alors, j'ai trouvé toutes les portes fermées. Et avec mon diplôme, j'étais en France, etc. Alors, je laisse tomber. Alors j'ai commencé à faire, j'ai trouvé un troupe ici, Sarah Diwani, j'ai trouvé un troupe qui chante ici, des musiciens, etc. Qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent des chansons, je ne sais pas, de l'Ouest, rien du tout, d'Égyptiens, comme j'étais moi. Alors j'ai chanté avec eux, alors il y a la troupe de la Félin, elle a fait un tour ici, elle est venue ici à l'Ouest, j'ai chanté avec eux. Il m'a pris pour aller à Tugurt, etc. Alors là, pour rien. Moi, j'ai ma voiture, j'ai mon argent de poche, etc. Alors, il me prend pour un fou. J'ai dit non, laisse tomber, allez, je vais retourner vers la France. Je suis retourné en France encore. Là, parce que quand je retourne en France, parce que bon, j'ai une idée ici à l'Ouette, qu'est-ce qui se passe? J'ai chanté dans plusieurs mariages ici à l'Ouette, bon, sans argent, hein. Et pour rien, pour l'amour de chansons. Allez, je retourne vers la France en 66. Je racontais Oum Kalthoum, bien sûr. Je racontais Oum Kalthoum. Oui, je racontais à l'Olympia. Non. On parle d'Oum Kalthoum. Alors là, l'Égyptien, c'est autre chose. Il y a un mur de béton entre le chanteur algérien et tunisien et tout ça. Et un chanteur égyptien. Parce que l'Égyptien... Alors là, moi, j'ai regretté de chanter les chansons égyptiennes. Parce que l'Égyptien, il ne mérite pas que je chante leurs chansons. Etc. Franchement. Parce que eux, ils se croient autre chose. Ils se croient pharaonistes, des pharaons, etc. etc. Un monde, autre monde. Maintenant, les Algériens, ils chantent mille fois, beaucoup mieux. Pas les chansons de Raïl, non, excusez-moi, non. Les chansons de l'Anqa. L'Anqa et le Ghafour. Ou Ayay, Khlifi, Diriassa, bien sûr, Diriassa. Et tout compris maintenant, actuellement. Ben oui, là, nous, on y chante de nous-mêmes, de notre identité, de notre... Oui, on chante de nous-mêmes. Monsieur Diriassa, je souhaite, je passe le bonjour. M'sa al-khair, Cheikh Diriassa. Bon, et Monsieur Khlifi Ahmed, etc. Donc, c'est mi maître, donc, le chouk n'ta'yana. Qu'abel, quand l'école n'ta'ha, donc, on dit l'école n'ta'ha, d'où m'annes. Donc, l'année, je suis avec eux. Je salue tout le monde. Voilà. Et maintenant, le Chabi, normalement, les Algériens, vraiment, j'ai rien compris. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on y parlait beaucoup de choses, madame. Bon, on y rentrait beaucoup de détails. بنيت العرجور رد علي يا بنيت العرجور ربي رد علي هكم لابس زين يلمس مية يا بنيت العرجور.
Vous repartez en France pour faire quoi?
Je retourne. Alors je cherche. Je retourne en France. C'est pas pour gagner l'argent cette fois-ci. C'est pour avoir mes... Parce que j'ai laissé mes affaires. C'est-à-dire que j'étais commerçant. J'ai un commerce. Eh ben oui. En parallèle, parce que je suis Sophie, madame. N'oubliez pas que je suis Sophie. Alors là, je ne fais pas que la chanson. J'ai fait le commerce aussi. J'ai travaillé avec le cousin de monsieur Mehi. Et je connais monsieur Noubli. Oui, mais j'ai une boucherie, j'ai une pisserie énorme, on gagne beaucoup d'argent. Alors là, je fais mes affaires, là, et la chanson, elle travaille dans mon esprit, tati. Et une fois qu'il y a un Marocain, on chante avec Jarrarien, mais il n'y a pas de genre, j'ai pas un genre, mais je cherche le genre, je cherche. Et une fois, voilà, il y a un Marocain qui va me composer deux chansons. Alors il y a un soufi là, connaissante de répétition, il y a un soufi qui s'appelle Ali Jaraya. Il m'a dit, mais écoute, ça c'est ses paroles, ça, il dit ça. Voilà, et j'ai une parole, voilà les soufis, qu'est-ce qu'ils disent? Adham Zayelli, il m'a dit, Jalla, Menhini l'Etak, Fattag al-Khulla, Salif Darbata, Mentecht al-Bakhnouk, Ban ou Khajlata, il dit, l'Ekshitir en Ham, Mrouah, Lembata, Kif Chef al-Sayyad, Menhina, Walla. يخدود الوردة وشامك نعناع زاهي برقة لو كان اللقيك نعمل لك وعدة ونادي الجيران والناس كلها اكسترا 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 لا لا واش لازني نخرج في الصبح واش لازني نشوف الزين بعياني واش لازني نعشق في السمح اللي نشب راسي ويلي عتناني ما بيتجلى ادهم زي اللي ما بيتجلى ادهم زي اللي ما بيتجلى من حين اللي تفتق الخلة ومن حين اللي تفتق الخلة يا خدود الوردة وشامك نعنا زي برقة خدود الوردة وشامك نعنا زي برقة لو كان نلاقيك نعمل لك وعدة ونادي الجيران والقعدة الكل ونادي الجيران هالقعدة الكل سالف درباته سالف درباته من تحت المخلوب بانو خجلاتك سالف سالف درباته من تحت المخلوق يا وحي بانو خجلتك يقول لك شطير نعم مروح لمباته يقول لك شطير نعم مروح لمباته كيف شاف الصياد من حين ول كيف شاف الصياد بحينه ولا
Ça, c'était la première chanson qui vous a conseillé pour vous la chanter. Et ensuite, vous vous êtes dit, je suis d'Elwed, il faut absolument que je trouve mon genre et que je me mette à chanter ma ville.
Grâce à cette chanson-là, je restais une semaine, deux, hop, je retournais vers l'Elwed. Voilà, maintenant, Abdallah, il va retourner vers l'Elwed, il va créer ses genres, voilà. J'étais très content, très content. J'ai laissé beaucoup de camions, j'ai beaucoup deux, trois voitures, j'ai laissé comme ça sur cale. Bah, je laisse tomber tout. Voilà. Et voilà, parce qu'il m'a passé ici à l'Oued, parce qu'il y a un orchestre, comme je vous dis tout à l'heure, il y a un orchestre mal démarré. Voilà, maintenant, j'étais fier, j'étais content de moi-même. Allez, je retourne vers l'Oued. J'ai ma métier de soudure. J'ai une idée de là-bas, j'ai ouvert un garage ici, enfin un petit atelier, et je travaille la soudure et la chanson, etc. J'étais là-bas, j'étais retourné vers l'Ouest, j'ai fait comme je suis. Bah, et j'ai l'esprit de faut que je marie, comme je disais tout à l'heure, il faut que je marie à l'Ouest. Bah, voilà. J'étais ici, j'ai commencé à faire la soudure et la chanson, et j'ai groupé un petit groupe, le groupe qu'il était avant. Mais je voulais changer les idées d'Ahmoukoulakda, alors ils ne voulaient pas. Alors je chantais avec eux, tout ça, de temps en temps, il faut l'Andalousie, etc. Non, la chanson, ce n'est pas comme ça. Et si vous me suivez, allez-y, sinon, hop, je vous laisse tomber. Bon, c'est etc. Je vous laisse tomber. Alors là, j'ai commencé à faire une idée. L'idée, quoi, c'est quoi? Ah, la Zorna. Parce que la Zorna, c'est elle qui fait l'orchestre. Je souffre depuis le début. Je souffre beaucoup parce qu'il faut un poumon, etc. Bon, et comment ça, j'ai commencé. Hop, et j'ai fait un deux tantamistes avec moi. Un rythme choral, etc. J'ai fait. Parce que la Zorna, là, elle fait elle-même. Quand je fais petite, elle fait un orchestre elle-même. Alors, le commandement, c'est moi. Et voilà, je fais une chanson à l'époque. Yali Tchibouna. Ah, Yali Tchibouna, c'est ça. Elle a perdu beaucoup de succès. Yali Tchibouna. Yali Tchibouna. Yali Tchibouna. Hawenawen. Yali Tchibouna. Lehzettofadamna. Wintum Tibouna. Hawenawen. Elle dit la chanson. Là, c'est ma chanson. C'est auteur, c'est la mienne. C'est la mienne. Ça, oui, d'accord. C'est Zolé qu'elle a pris après. Parce qu'elle a pris Boulifa. Parce que Boulifa, elle était à Tougourt. Mais elle n'est pas loin d'ici. Et là, les gens de l'Oued, et là, ils ont pris cette chanson-là. Et parce qu'avant, ils ne savaient pas que Menaï écrit les chansons, compose, machin. Et personne qui savait. Bon. Moi, j'ai dit, je m'en fiche, moi, que je suis maintenant, j'ai cette genre-là, et je suis fier, les gens, il m'a plu, j'étais content de moi-même. Alors, je laisse tomber, il dit, c'est moi, c'est ma chanson ou pas ma chanson, j'ai rien fou.
Vous écrivez vous-même vos chansons, mais ici à l'Oued, il y a beaucoup de poètes. Est-ce qu'il vous arrive de chanter la poésie ici de poètes de l'Oued?
Voilà, les poètes de l'Oued, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais on ne se réunit pas, normalement, comme normalement. Le chanteur, le compositeur, le machin, est se réunit. Et maintenant, la vie quotidienne de l'Algérie, les choses, la politique algérienne, les trucs algériens, le GOFA, et la paix, le SMIG, ça, ils ne nous laissent pas réunir. Parce que le Thaqafa, ça, l'envie de la réunion de compositeurs, etc., etc. elle sort de quelque chose. Mais nous, On ne peut pas se réunir. Parce que là, moi, par exemple, je suis maintenant, comment ça s'appelle, Naqib Fananin. Mais je n'ai pas un lieu. Je demande à l'Ouali qui me donne un lieu, il ne me donne pas. Mais je demande à, qu'est-ce que je demande à qui? Il y a un café de Moussaqfin. On a dit, voilà, Moussaqfin, kada. Ça, c'est, elle sort beaucoup de choses. Parce que là, on change des idées, voilà, là, elle sort. Mais on donne chacun pour soi. Et Dieu pour tous, comme l'a dit le français. Normalement, il y a des grands messieurs qui ont beaucoup d'argent. Normalement, c'est eux qui s'occupent de Taqafa. Parce que là, le gouvernement, il dit, quand on dit à monsieur, fais-nous quelque chose comme ça, il dit, le gouvernement, il ne fait pas. Qu'est-ce que vous voulez que je perds mon argent à Taqafa. Et je suis l'Oued de l'Oued de l'Oued, et je suis maire de l'Oued, et je suis caïd de l'Oued. Je suis un peu tout, mais sans lieu. Sans adresse.
Alors, vous êtes un chanteur qui a traversé des générations, ce qui vous rend un chanteur heureux. Vous êtes heureux dans la vie?
Moi, je suis heureux, mais quelque chose qui m'échappe, qui m'aille. L'Algérie, il n'est pas encore l'Algérie que je souhaite. Parce que j'étais un révolutionnaire, j'ai fait la révolution, j'ai fait tout. Mais je souhaite que l'Algérie, ce n'est pas comme ça. Et voilà, maintenant, je n'ai rien compris. J'ai rien compris. Chaque jour, je dis, voilà, l'Algérie, de temps en temps, je dors, et demain, le lendemain, je trouve quelque chose bien. Alors l'Algérie, surtout la culture. La culture, c'est mal démarré. Elle est mal démarrée. Là, l'Algérie, c'est si grand, c'est vaste. Et bien, les chanteurs, maintenant, il y a beaucoup de chanteurs qui souffrent. Alors là, c'est honteux, ça. Ah, ok, mais le Hanou Shabab, c'est une autre chose. Le Hanou Shabab, qu'est-ce qui se passe dans le Hanou Shabab? Est-ce que l'Algérie, مثلا هذا هو حنا درك نخدموا الاغنيه الجزائريه on va حنا نسجلوا الاغنيه الجزائريه التراديسيون نسجلوا الاغنيه الجزائريه بون كيفاش الفرقه العظيمه هذيك الاوركستر اغا الاوركستر تاع السوفونيه تهزبط العرجون فو كاش كي سباس وعلاش يا سيدي لا منا بعيد عليكم حتى في التليفون قال منا بون بيت العرجون فيك البلاصه الفلانيه بون فزت راكم منيسترو وراكم قارين الموسيقى نعم متفق معاهم ولكن حاجه في بيت العرجون ما يقدرها شي ما يقدرها كامل ناعي ونقول لكم عليها وين تكون باش نهبط قديم هذه غلطه هذه مش غلطه هو اسمها وتعملوا لنا في البوليتيك نتاع اسمها ستار اكاديمي ما قبلتهاش الدوله الجزائريه عملتوها اوترمون الو لا ولكن هذيك من باب الغيره باسكو شي جالو دار الجيري اي باش شي موناج لازم نقول هذا الحديث هذا كلامي جدي تولي ريسبونسابل قال يا ناس الجيري راهي تعبانه راي ان شانسون طلع الجزائري الفوق ان سامبل شانسون ان سامبل ميوزيسيان يطلع الجزائر الفوق ان سامبل رياضي يطلع الجزائر الفوق ميم رياضي
فيزيتي الواد سو في بور نو ان انشانتمون جيسبر بارتاجي نو فو دونون رانديفو لا سيمين بروشين ا لا ميم هور اي سور لا ميم شين اي سي فو ايت لا الوغ سو سورا بيان
بعيد عني.